I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
2,21 chicorois, mon Dieu!
Recherche, scanner.
Fred, qu'est-ce que tu fais dans cette tenue?
Chut, Jamy, je mène une enquête.
Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent.
Sixième Science, un podcast 20 minutes et science et avenir.
On prend une grande respiration et on fait gaffe au tympan. Bon, je devrais peut-être vous prévenir, on est parti pour 20 minutes d'apnée. Et oui, c'est bien ce qu'il faudra pour passer la barre des 10 000 mètres de profondeur, une contrée obscure et intimidante où l'homme ne s'est jamais risqué avant nous, ou presque.
À mon commandement, debout ! Première leçon, plonger et remonter !
Alors que l'humanité part sur la Lune en dos crôlé, les doigts dans le nez, j'ai envie de dire, l'exploration des grands fonds marins est encore au stade du petit bain. 3 hommes seulement auraient plongé jusqu'au point le plus profond de la planète et 99% du plancher océanique nous demeurerait inconnu. Plus pour très longtemps, nous dira notre chef d'expédition et plongeuse podcastique, oui, je viens de créer cette fonction, Sylvie Roy. Bonjour et bienvenue Sylvie.
Bonjour.
Alors, tu es spécialiste de l'espace et des océans au magazine Science et Avenir, c'est bien ça?
C'est tout à fait ça.
Ok, tu vas revenir avec nous sur 2 projets. Le premier, mené par la Chine, prévoit ni plus ni moins d'installer une base sous-marine à 5000 mètres sous le niveau des eaux. Et le second est encore plus fou. Un trader américain s'est lancé comme défi d'observer dans son sous-marin portable, on reviendra là-dessus, hein, les zones les plus profondes des 5 océans. Reste à savoir ce qu'on va bien pouvoir y faire et surtout ce qui nous attend en bas. On garde la bouche bien fermée et on ouvre grand les oreilles. La plongée a commencé.
Envoyez ces bêtes immondes dans les abysses.
Tu commences ton dossier en disant que l'homme connaît mieux Mars que le fond de nos océans. On va jargonner une seconde, promis, on va pas s'attarder là-dessus. Tu emploies le terme de zone Adal. C'est quoi exactement?
Ce qu'on appelle la colonne d'eau, c'est-à-dire toute la profondeur des océans est divisée en 4 parties. La troisième partie, elle dit de la zone abyssale, on pourrait penser que c'est la dernière, pas du tout. Il y a la zone des enfers, du nom du dieu des enfers, la zone Adal, qui est comprise entre 6000 mètres et 10 000 mètres de profondeur, 10 à 11. En général, ça correspond à une zone de subduction, c'est-à-dire une zone où une plaque tectonique passe sous une autre. Donc il y a 33 fosses de subduction sur les 46 zones Adal que l'on connaît sur la planète. Et 5 dépassent les 10 km de profondeur.
Ok, et finalement... c'est un exploit qui ne remonte pas à hier. Enfin, on y est déjà allé plusieurs fois sous dans ces zones Adal à 10 ou 11 000 mètres de profondeur.
Alors, des humains, il n'y en a que 3 depuis les années 60. En revanche, on y envoie des robots. Les Japonais, les Américains envoient donc, notamment dans la fosse des Mariannes qui dépasse les 11 km. Le point le plus profond serait à 11,5 km.
Et comment ça se fait qu'il n'y ait que 3 personnes, dont le réalisateur James Cameron, qui sont allées dans cette zone?
Alors, il faut savoir que passé 10 km de profondeur, on est à plus de 1000 fois la pression atmosphérique. Pour l'humain, ce n'est pas facile. Donc, il lui faut un bathyscaphe très, très...
résistant.
Résistant, c'est le moins qu'on puisse dire. Le dernier qui donc va y aller, qui actuellement est allé dans la fosse de Porto Rico, lui, il a 9 cm de titane pour faire la coque. Voilà, c'est une sphère qui est faite sans soudure pour pas que ça cède. Donc c'est beaucoup de technologie et c'est aussi une mise en danger de l'humain qui est importante. On n'a pas mis d'humain sur Mars non plus.
Pour l'instant.
Pour l'instant.
Et qu'est-ce qu'on trouve à 11 km sous le niveau de la mer?
Alors James Cameron a dit « on dirait la Lune ». Donc c'est un peu ça, une espèce de petite poudre blanche qui tombe. Avec ses gros phares, on voyait une espèce de sédiment blanc. Et on trouve des bactéries, quelques poissons au-delà de 6000 mètres. On trouve des poissons, 2 types de poissons, dont des poissons qui ressemblent à des limaces ou à des serpents, et des bactéries.
Alors là, c'est vraiment cool que tu parles, que tu évoques ce point-là, parce que c'était l'une des questions de notre communauté. Alors, c'est la question de Hakim Manadi qui nous a dit « Comment est-ce possible que des êtres, entre parenthèses des poissons, peuvent résister à la pression des abysses où l'homme, bah, justement, ne pourrait pas survivre sans, on l'évoquait, hein, une armure de 9 cm de titane ?»
Parce qu'ils sont adaptés, donc ils ont toute une physiologie adaptée. Il y a une bactérie qui s'appelle MT41, qui elle ne vit que au-delà de 380 fois la pression atmosphérique. Elle ne peut pas se reproduire à moins de ça. Et elle meurt complètement si elle arrive à la surface. Donc eux ne peuvent survivre, ils sont totalement adaptés. Donc c'est des phénomènes physiologiques un peu complexes. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, eux, ils ne survivraient pas à notre pression atmosphérique de surface.
Donc ça veut dire qu'on ne pourrait pas ramener de spécimens dans un
aquarium.
Alors
on a mis au point des espèces de caissons où on garde à l'intérieur de ces caissons la température et la pression pour pouvoir les ramener vivants. Parce qu'auparavant, dès qu'on ramenait quelque chose, on était tout flasque à l'arrivée. Alors, il y a une hypothèse donc, qui est controversée, mais qui dirait que notre ancêtre commun, le grand ancêtre commun, il serait né à ces pressions atmosphériques très très importantes, tout en bas. Et que nous, on se serait adapté à remonter.
Ah oui, mais donc ça remonte à combien tout ça?
Plus de 3,5 milliards d'années.
Ok, ouais, donc ça fait un sacré arbre généalogique. Voilà. Ok, très bien. Alors là, on attaque un petit peu, on a planté le décor, la faune et la flore. On attaque le cœur du problème, c'est celui des projets. Aujourd'hui, 99% du plancher océanique resterait inexploré selon l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, NOAA. Qu'est-ce qui fait qu'on soit si peu allé explorer les océans? Est-ce qu'il y a un manque d'intérêt ou un manque de moyens pour aller...
Alors d'intérêt, non. Il y a un grand intérêt, mais un manque de moyens, c'est sûr. Je vais faire une comparaison avec une planète, Mars, ou la Lune. On met un satellite autour, il n'a rien qui l'entrave, et il fait des tours et des tours, et il cartographie de manière finalement assez aisée. Là, nous, on a des bateaux qui, sur des grandes surfaces, c'est quand même 70% de la surface terrestre, les océans, ne font qu'un petit filet, en fait, de cartographie. Donc, on n'a pas assez de bateaux. D'où l'idée, c'est une idée qui vient de surgir d'un groupe de scientifiques internationaux basés à Monaco, de faire le projet Seabed 2030, de cartographier l'entièreté donc des fonds océaniques en équipant tous les bateaux qui sillonnent les mers, donc les commerciaux, les voiliers, bateaux militaires, les sous-marins, enfin tout ce qui vogue dans les océans, du même sondeur. Et les données seraient retransmises et recroisées pour faire cette fameuse cartographie générale.
Et de ton point de vue, est-ce qu'il n'y a pas non plus un manque d'ambition pour, on va dire, la société civile, pour le grand public qui se dit, bon, est-ce que...
À quoi ça sert?
Ouais, à quoi ça sert d'aller explorer le fond des océans? On aurait mieux fait, effectivement, d'aller coloniser Mars.
C'est clair que ça intéresse plus les militaires, parce que je vais raconter une histoire. C'était un sous-marin qui a eu un gros accident, je ne sais plus, c'était genre dans les années 60. Et on s'est demandé s'il n'avait pas été attaqué, quelque chose. En fait, non, il était rentré dans une montagne sous-marine. Donc c'est assez important pour pas mal de gens qui sont dans les fonds. C'est vrai que pour nous qui vivons à la surface, après on a notre surface bleue, ça nous suffit. Savoir qu'il y a des grandes montagnes au fond, c'est peut-être moins important pour nous.
Ouais, donc on attendra 2030 pour un peu de cartographie. Est-ce que tu peux nous présenter une autre personne, un autre projet? C'est Victor Vescovo et le drôle de défi qu'il s'est mis en tête d'accomplir. C'est-à-dire il s'est dit, tiens, je vais aller explorer les fosses les plus profondes des 5 océans de la planète.
Tu vois, l'abîme appelle l'abîme. Abyssus abyssum invocat.
Les citations latines, ça va aller là, c'est bon.
Tout à fait. C'est un sacré zozo, Victor Vescovo, pour parler un petit peu crûment. C'est un riche trader, donc il a fait sa fortune sur les marchés des finances. Mais c'est aussi un grand aventurier par ailleurs, parce que donc il conduit des sous-marins, il conduit énormément de choses, des avions, et il a gravi les 7 plus grands sommets de la Terre et a rejoint le pôle Nord et le pôle Sud en ski. Donc déjà, il a à son actif pas mal d'exploits. Maintenant, il veut se mettre un défi encore plus haut, à savoir aller dans les 5 profondeurs les plus grandes de chaque océan, parce que je crois que c'est la dernière frontière qu'on n'a pas franchie. Les 7 sommets, quelque part, il n'est pas le premier à l'avoir fait. En revanche, les fosses océaniques, elles sont totalement inexplorées. Et il est déjà le premier humain à être allé dans une fosse, à savoir la fosse de Porto Rico, dans l'océan Atlantique. C'est lui, l'homme le plus profond de l'océan Atlantique.
Et c'est quoi? C'est 8000 mètres, c'est ça? Quelque chose comme ça?
C'est même 8376 mètres, pour être précis. Donc, on est dans des grandes, grandes profondeurs. Je rappelle, fosse des Mariannes, 11500. Donc, il y a encore un peu de marge de progression, mais c'est le point le plus profond de l'Atlantique Nord.
Et au-delà de l'exploit, qu'est-ce qu'on pourrait en ramener de ces expéditions?
En fait, on ignore tout de ce qu'il y a là. Tout à l'heure, j'ai parlé de poissons limaces, de poissons serpents, de bactéries, mais peut-être plein d'autres choses. On est tellement peu allé qu'on ne sait pas exactement ce qu'il y a et comment la vie s'est adaptée à ces grandes pressions.
Du coup, il est quand même entouré de chercheurs, où il y va comme ça avec son sous-marin?
Non, il a engagé une équipe avec lui, une équipe de scientifiques britanniques, dont il a un chef scientifique, mais c'est lui qui va plonger, puisqu'il y a l'exploit quand même. En revanche, son sous-marin, un un sous-marin de 11 tonnes, quand même, qu'il a fait entièrement sur mesure pour lui, qui a été testé en Russie, donc à des profondeurs correspondant à celles de 13 000 mètres, ce qui n'existe pas sur la planète. Donc là, on est à peu près sûr que ça marche. Et il a accompagné de ce qu'on appelle des atterrisseurs, ce qu'on appelle les fameux landeurs sur la Lune, donc qui atterrissent de manière séparée de lui. Il y en a trois qui atterrissent et qui eux-mêmes vont faire d'autres expériences à côté du sous-marin. Donc c'est une zone un peu plus étendue des fonds marins.
On a parlé de Victor Vescovo. Est-ce qu'on peut aborder un autre projet qui est lui aussi assez costaud? C'est celui de la Chine, hein, qui parle d'installer une base dans la zone Adal.
Alors, quand on pense base sous-marine, on pense à des tas de gens qui sont dans un sous-marin. Là, en réalité, c'est une base totalement automatisée. Donc, on imagine une base, alors je vais vous la faire, c'est un peu science-fiction, mais une base qui est totalement habitée, une petite ville sous-marine habitée de drones, enfin de robots. Donc, il y a des robots plongeurs, des robots, toutes sortes de robots. Et cette petite ville, le maire de la ville serait une intelligence artificielle qui gérerait les différents labos d'analyse. Donc, les petits robots partiraient au petit matin. Donc, je vous la fais un peu romancée, mais ils partent à une heure précise de faire leur exploration. Ils ont une autonomie et ils reviennent sur leur petite base pour se recharger et en même temps transmettre tout ce qu'ils ont vu, les images. Ils ont des capteurs chimiques, ils ont des sondeurs sismiques, ils ont beaucoup de choses, enfin, dans ce qui est prévu actuellement dans le projet, qui n'a pas encore le moindre boulon vissé actuellement.
Tu as évoqué, tu as dit le mot important, hein, de sismique. Je crois que l'un des angles de ce projet, c'est justement de surveiller de façon accrue les secousses qui pourraient concerner justement la Chine.
La Chine et ses voisins, parce qu'en fait, ils veulent déposer cette base en mer de Chine. La mer de Chine, c'est un imbroglio juridique, puisque chacun des pays frontaliers, enfin limitrophes de cette mer de Chine, revendique qui une île, qui ceci, qui cela. Donc, eux, ils veulent poser leur base dans la fosse des Manis. C'est assez grand, la fosse des Manis, c'est le long des Philippines. Et là, donc le discours officiel, c'est on pourrait surveiller toute la sismicité. Donc, c'est une zone extrêmement sismique. Et s'il y avait un tremblement de terre dans cette zone de subduction, ça pourrait générer un tsunami avec des vagues de 4 mètres de haut. C'est pas rien. Donc, sur tout le littoral de la région. Ça serait dévastateur. Donc, la Chine dit, nous, on va mettre des capteurs au fond, justement, pour essayer de voir les mouvements sismiques et éventuellement faire des alertes pour évacuer au cas où. Donc tout ça dans une zone frontalière des Philippines.
Oui, j'imagine que le gouvernement philippin et les autres pays alentours, hors Chine, ne sont pas trop ravis de voir débarquer cette base sous-marine qui, en plus, pourrait avoir des utilisations, enfin des militaires, non ?
Alors, les utilisations militaires, elles ont été clairement évoquées par le président chinois, donc qui parlait de cette base, sachant qu'effectivement, c'est le grand enjeu géopolitique de la région. Alors, si c'est... Il y a deux zones économiques exclusives dans cette fosse des Manilles. Donc, c'est des zones où la législation d'un pays s'applique. Il y a une partie sur les Philippines. S'il posait de ce côté-là, comme le gouvernement philippin est, disons, soumis au gouvernement de Pékin, ça devrait ne pas poser trop de problèmes. En revanche, il y a une partie qui est une ZEE, zone économique exclusive de Taïwan. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, pour la Chine, il ne demanderait même pas l'avis à Taïwan, puisqu'il considère que Taïwan est chinois. En revanche, il n'est pas impossible que Taïwan le prenne assez mal.
Ouais, donc c'est quand même assez problématique, on peut le dire.
Très clairement.
Et là, on a évoqué les enjeux militaires, mais il y a aussi des enjeux technologiques. Enfin, tout à l'heure, tu disais que le Batiscaf, enfin, le sous-marin de poche de Victor Vescovo était super, super technologique, ultra avancé. Là, une base sous-marine autonome, alimentée avec des drones en continu, enfin, c'est du jamais vu.
C'est du jamais vu. Ça va poser beaucoup de problèmes de corrosion, puisqu'en fait, il y a une eau très salée, problème de température, c'est pour l'électronique, donc c'est des températures proches de zéro. Donc il faudra vraiment qu'ils fassent un grand pas en avant en termes de matériaux, de nouveaux matériaux, d'une électronique extrêmement dure, résistante, plus résistante que pour le spatial, je pense. Et en plus, c'est des zones sismiques et des zones volcaniques. Ça fait beaucoup.
On évoquait la question de la coopération tout à l'heure. Donc là, potentiellement une base sous-marine qui serait donc dans des eaux plus ou moins internationales et avec plus ou moins de coopération des autres pays. On évoquait le projet de Monaco. Comment ça se fait qu'on n'ait pas des projets internationaux où justement plusieurs pays travaillent un petit peu main dans la main pour explorer les fonds marins ?
Alors le projet qui est basé à Monaco regroupe énormément de scientifiques de différents pays et pourrait mettre en œuvre des voiliers, des bateaux, comme je le disais, de tous les pays. Mais je pense qu'on souffre dans les fonds marins de la même problématique, on souffre en tout cas, on vit la même chose qu'au tout début de la conquête spatiale, à savoir que les pays y allaient indépendamment les uns des autres. Et dans les années 80, les Américains, quand ils construisaient la station spatiale internationale, qui à l'époque s'appelait la station Freedom, ils le faisaient tout seuls et ils se sont rendus compte qu'ils n'y arriveraient jamais. Donc ils sont allés voir les Russes et puis ils ont demandé voilà, aux Canadiens, aux Européens de les accompagner, aux Japonais, pour ne pas les oublier. Et je pense qu'à terme, si on a des projets de plus en plus ambitieux dans les fonds marins, on sera obligé d'être internationaux, d'avoir plusieurs pays qui travailleraient ensemble, main dans la main, effectivement, pour arriver non seulement à explorer les fonds marins, mais maintenant, on parle également d'exploiter. Il n'y a pas que le pétrole.
C'est la question que j'allais poser, hein, c'était quel est l'intérêt ? Enfin, finalement, si jamais on n'est qu'au tout début de l'exploration sous-marine de ultra-profondeur, enfin, qu'est-ce qui pourrait légitimer ces dépenses qui sont, on imagine, assez conséquentes d'argent et de moyens humains ?
Alors certains parlent d'exploiter les minéraux. Ce n'est pas très crédible à l'heure actuelle parce que c'est moins cher quand même de les récupérer sur la terre ferme. En revanche, il y a un potentiel en termes biologiques, en termes de nouvelles molécules totalement inconnues pour les médicaments, pour des tas de choses. Et là, c'est quasiment infini comme réservoir.
Ouais, donc ce serait d'aller voir un peu les écosystèmes présents dans les grandes profondeurs et voir ce qu'eux pourraient éventuellement nous apprendre.
Ce qu'ils ont développé voilà, comme phénomène adaptatif qui pourrait nous servir à nous en termes de médecine. Mais ça, c'est la grande inconnue.
Et c'est la grande inconnue qui deviendra connue en 2030, 2050 enfin, quels sont les...
Il n'y a pas d'échéance donnée, mais Victor Vescovo va ramener des choses. Il y a un concours actuellement pour cartographier, faire des relevés chimiques qui s'appelle le Seashell X-Prize, un peu comme il y a eu la même chose pour la Lune, où on voit qu'il y a beaucoup, ça commence à bouger pour aller exploiter les grands fonds. Donc il n'y a pas d'échéance, mais sur Mars, on donne des échéances depuis 20 ans et on ne les tient pas, donc ce n'est pas très grave non plus.
Mais ça commence à s'agiter, quoi.
Ça s'agite beaucoup dans les grands fonds.
Retour à l'air libre, vous pouvez reprendre une vie normale au milieu des mammifères du plat pays. Pendant ce temps, les ultra-profondeurs conservent bien des secrets et il faudra d'autres curieux pour succéder à la Five Deeps Exploration et en explorer les moindres recoins. Sylvie Roy, merci de nous avoir ramenés sains et saufs.
Merci de m'avoir accueilli.
Je n'en attendais pas moins de la spécialiste de l'espace et des océans du magazine Science et Avenir que vous pouvez justement retrouver en kiosque en ce moment. J'espère que nous aurons l'occasion de revenir ensemble sur les résultats des différentes expéditions évoquées aujourd'hui. Aux plongeurs de l'audio que vous êtes, sachez que le bateau 6ème Science est amarré sur iTunes où vous pouvez nous noter et lancer des bouteilles à la mer sous forme de commentaires. Pour échanger, il y a une adresse toute simple, audio@20minutes.fr. Enfin, je ne peux pas vous laisser partir sans lire les toutes dernières lignes de 20 milieux sous les mers, je sais que c'était attendu, mais gaffe aux spoilers. Aussi, à cette demande posée il y a 6000 ans par l'Ecclésiaste, qui a jamais pu sonder les profondeurs de l'abîme ? Deux hommes entre tous les hommes ont le droit de répondre maintenant, le capitaine Nemo et moi, peut-être vous et tous les auditeurs de 6ème Science désormais. À dans un mois, et n'oubliez pas, on envoie de la science dans tous les sens.
2,21 gigawatts, mon Dieu !
Fred, qu'est-ce que tu fais dans cette tenue ?
Chut, Jamy, je mène une enquête.
Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode ? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. et merci de nous avoir écoutés.